Il y a un sujet qui n'était pas primordial pour vous, mais qui concerne le cannabis. Puisque tout récemment, et à plusieurs reprises, vous avez Julien Drey, qui est bien connu au sein du Parti Socialiste, qui a proposé publiquement, notamment sur des plateaux télévision, par exemple avec Thierry Ardisson, il a indiqué publiquement qu'il était pour la légalisation du cannabis. On a vu, par exemple, le Cirque indiquer récemment que si le cannabis était autorisé et vendu un peu dans les mêmes conditions qu'il l'était en Hollande, cela pourrait créer 30 000 emplois en France. Alors, est-ce que vous avez eu un débat là-dessus au sein du Parti Socialiste? Est-ce que vous n'avez pas pensé que dans une période économiquement compliquée pour la France, ça pourrait être quelque chose d'envisageable? Et puis aussi, les prisons sont quand même assez saturées par des simples consommateurs ou petits dealers de cannabis. Est-ce que c'est pas de l'argent qui pourrait rentrer dans les caisses de l'État au lieu de les dépenser à faire une grosse répression là-dessus, quoi?
Moi, je veux bien répondre tout d'abord là-dessus, de mon point de vue d'un jeune de 25 ans.
Et après, vous aurez le point de vue.
Et vous aurez le point de vue d'un plus âgé. C'est la solidarité intergénérationnelle au PS. On en a longuement débattu. Moi, depuis que je suis au MJS, quand je suis arrivé au MJS, on débattait déjà de cela. Parce que le mouvement des jeunes socialistes, dans sa grande majorité, est favorable à la dépénalisation du cannabis. Moi, j'ai plus de temps d'y réfléchir à cette question-là. Et je vais être très honnête, je ne vais pas du tout la prendre sous un angle économique. Parce que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. À mon avis, c'est pas le bon argument, c'est pas la bonne raison. Aujourd'hui, il existe une drogue en France qui est consommée. Tout le monde le sait. Qu'en fait-on? Est-ce qu'on la légalise? Est-ce que... Bon. Pendant longtemps, j'ai été hésitant. Et puis, pour être très honnête, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut la dépénaliser. Parce que le problème n'est pas en soi d'accepter et de rendre normal le fait de consommer du cannabis, mais plutôt de considérer que lorsque l'on légalise une drogue, on peut mieux la contrôler. Et aujourd'hui, on sait que tout le commerce autour du cannabis, on connaît les effets pervers de tout ce commerce qui est autour de cette drogue. Et donc je pense que à partir du moment où on peut légaliser cette drogue, et donc on peut encadrer derrière, qu'on peut soigner, qu'on peut accompagner les consommateurs demain excessifs du cannabis, je pense que c'est une meilleure solution que de fermer les yeux, parce qu'aujourd'hui c'est ça qu'on fait. Quand on entend des discours, on en entend de nombreux d'ailleurs sur cette thématique-là, on ferme les yeux, mais ça existe. Alors je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, moi je fais partie de ceux, je vais être très honnête là-dessus, François Hollande ne s'est pas positionné réellement là-dessus, on ne va pas mentir. En revanche, au sein du Parti Socialiste, il y a des discours qui divergent, mais je pense que petit à petit, au même titre que d'autres débats qu'il y a pu y avoir dans le passé, mais mes compères en parleront peut-être mieux que moi, il faut du temps. Il faut du temps pour que certaines idées avancent, pas forcément sur l'acceptation en soi du cannabis une fois de plus, mais sur le fait d'accepter que lorsque on reconnaît une drogue, on peut mieux accompagner les jeunes, les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs, qui peuvent l'utiliser, pour que demain, eh bien, on puisse faire en sorte que dans ce pays, on puisse reconnaître que c'est une réalité et qu'aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers de Français et de Françaises qui consomment du cannabis, et ne fermer les yeux n'est pas une solution à mon sens.
D'accord.
Enfin, moi, je ne voudrais pas aborder ça sous l'angle économique, parce que ça ne me paraît pas être au bon angle d'attaque, bien évidemment. Mais j'aborderai ça d'abord sous l'angle juridique. La pire des choses dans une démocratie, c'est quand on n'applique pas la loi. Aujourd'hui, la loi fait que tout consommateur de cannabis devrait être condamné. Sauf que ce n'est pas le cas, et heureusement, et tant mieux.
Les prisons sont quand même peuplées d'énormément de consommateurs.
De dealers. Non.
Il y a une tolérance jusqu'à 2-3 grammes.
Oui, mais il y a pas heureusement que les consommateurs de cannabis qui ne dealent pas ne sont pas, je veux dire, poursuivis par les tribunaux.
Mon pavé dans ton nu, une émission exclusivement consacrée au premier tour des élections présidentielles sur Pulse 97 FM Alençon Le Mans, également sur nrv.fr, la nouvelle radio vénère. Exclusivement sur internet, nous avons donc consacré un même temps de parole à chaque candidat des élections présidentielles. On a fait en un mois le tour des 10 candidats. On vous diffuse tout ça ce soir de 18h à 21h, également demain soit jeudi sur Pulse 97 FM et énervé, donc mercredi 18 avril de 18h à 21h, et puis la suite jeudi 19 avec d'autres candidats, et notamment ceux qui auraient aimé se présenter et qui hélas n'ont pas plu, ou hélas, ou parfois tant mieux. Voilà. Et je suis un grand héros. Et puis, il y a quelques instants, c'était une intervention de Kevin Baudet qu'on a eu également l'occasion d'interviewer. Kevin Baudet, maire adjoint à la démocratie locale de la ville d'Alençon. Il nous a répondu évidemment à tout un tas de questions, mais histoire d'équité entre chaque parti, eh bien, nous n'avons pas pu diffuser aujourd'hui plus de quelques minutes. Et comme on avait reçu beaucoup de questions de votre part, auditrices et auditeurs, concernant la ganja, le cannabis, eh bien, nous avons diffusé pour l'instant que cette partie de l'interview, voilà, et puis peut-être la suite entre les deux tours, ne sait-on jamais. Également, nous avons attention, une petite exclusivité et une petite info de dernière minute, nous avons eu confirmation d'un entretien en tête-à-tête avec François Hollande, au cas où il serait présent au second tour. Et puis quant au président sortant, bien évidemment, nous avons fait le maximum pour obtenir accréditation et lui poser des questions à lui ou à l'un de ses proches porte-parole. Et comme on vous l'indiquait il y a quelques instants, nous n'avons été accueillis que par les Robocop, armés de bombes lacrymogènes et autres matraques. Ils étaient plus de 600 au meeting de Nicolas Sarkozy, c'était vendredi 6. Toutefois, à la dernière minute, à Alençon, nous avons réussi à interviewer Nathalie Pécresse avec une superbe question concernant les impôts payés par Madame Bettencourt.
J'ai mal au crâne, ma grande. Je m'étais réveillé batraque, c'était la France d'après. Une matraque martelait mon crâne et une petite voix me disait: lève-toi, il est tard, lève-toi, il va bosser. Lève-toi, cafard, je me serais cru à mon procès. Je connaissais le cauchemar, mais là c'était du concret. Combien de tuiles allait-il pleuvoir avant la fin de l'été? Alors je suis sorti du plumard, mais la foi s'est entêtée à me dire qu'il était tard, que j'avais tout l'air d'un raté, que tout est possible, mais sans moi, sans les précaires, les fragiles, les sans voix, un coup de karcher magique et tout doit disparaître. Pour moi ça sera un aspégique, je n'arrive pas à réapparaître dans le monde des vivants. Dire qu'on en a pris pour 5 ans au moins, vu l'apathie de l'autre camp, vu l'appétit de ce nain. 5 ans à entendre ce refrain, oh non. Lève-toi, il est tard pour gagner plus, faut se lever tôt. Lève-toi, cafard, comment ça, t'as pas de boulot? Lève-toi, il est tard pour gagner plus, faut se lever tôt. Lève-toi, cafard, comment ça, t'as pas de boulot?
Bonjour, vous êtes en relation avec le serveur vocal Unidialogue de l'Assistance.
Contrôle.
Veuillez composer les chiffres de votre numéro identifiant.
Contrôle.
Ça peut paraître moins frelaté que la fois dernière, mais une gueule de bois au petit combière, c'est traître et ça tape sévère quoi. T'es pas encore converti, t'inquiète là comme on a convaincu des plus avertis. Que toi, c'est ce que m'a dit cette voix, celle que j'entends depuis ce matin, la voix de l'économie solidaire. Mais tu m'étèves pas des précaires. Chao Pantin va bosser plus pour gagner pareil. Alto Mutin, dans la France d'après tout se paye content. Cellule de dégrisement systématique, car si t'es mécontent, c'est que t'as un gène problématique. Ma migraine s'étend, ça c'est symptomatique. Mais même un buveur débutant, c'est comment soigner une cuite, trois verres de Pernod. Et dès 13h30 j'serai bourré. Cette petite voix m'y invite et ne cesse de me murmurer. Lève-toi, il est tard pour gagner plus, faut se lever tôt. Lève-toi, cafard, comment ça, t'as pas de boulot? Lève-toi, il est tard pour gagner plus, faut se lever tôt. Lève-toi, cafard, comment ça, t'as pas de boulot?
Bonjour, vous êtes en relation avec le serveur vocal Unidialogue de l'Assistance.
Contrôle.
Veuillez composer les chiffres de votre numéro identifiant.
Contrôle.
Vous connaissez ce numéro?
Ah bon?
Si vous ne l'avez pas,
c'est pas bien.
Pour actualiser votre situation mensuelle, tapez 1. Pour consulter votre dossier acidique, tapez 2.
Si vous êtes à la recherche d'un emploi, tapez
1.
Sinon, tapez
2. C'est pas bien.
Si vous avez repris le travail,
c'est bon.
Si vous êtes parti en retraite,
n'importe quoi.
Si vous avez travaillé,
c'est extraordinaire.
Tapez
1.
Sinon, tapez
2. C'est pas bien.
Eh bien, nous sommes en ligne avec Madame Brigitte Brière, représentante Debout la République, parti du candidat Nicolas Dupont-Aignan. Voilà, donc j'avais toute une petite série de questions à vous poser, telles que je l'ai fait avec les différents candidats aux élections présidentielles. J'aurais voulu commencer, si ça ne vous dérange pas, sur votre programme économique. Donc vous êtes enfin monsieur Nicolas Dupont-Aignan est le seul à ma connaissance il me semble candidat qui propose de revenir sur la loi du 3 janvier 1973 qui consistait à retirer à la Banque de France le droit de frapper monnaie et tout ceci nous oblige à emprunter auprès de banques privées avec des taux d'intérêt à 2-3% plus élevés que si l'on empruntait à la banque centrale. Alors pourquoi les anciens candidats les anciens présidents ne sont pas revenus sur cette loi?
Alors là, c'est aux anciens candidats qu'il faudrait poser la question. Là, vous me mettez dans un embarras parce que...
Et votre sentiment personnel?
Comment?
Votre sentiment personnel sur la raison qui fait qu'ils ne sont pas revenus là-dessus?
Peut-être n'avait-il pas envie de revenir justement pour donner la part belle à la finance.
Vous avez eu beaucoup de difficultés à obtenir les 500 signatures en proposant ce genre de loi. Je suppose que ça a dérangé un petit peu les autres candidats. Est-ce que vous avez vraiment eu beaucoup de difficultés à les obtenir?
Alors pour ma part, moi qui ai sillonné, je dirais, trois départements, non. Bien sûr, il y a une certaine réticence, mais la réticence ne venait pas du fait de donner des parrainages à un candidat ou de regarder son programme. Le fait venait plutôt que ce parrainage n'est pas anonyme. C'était le seul point. En fait, très peu de maires ont demandé ce que M. Nicolas Dupont-Aignan proposait dans son programme électoral. Je dirais que la grosse objection, c'était « oui, mais les signatures sont publiées et on va me dire que je soutiens tel candidat ». C'est tout.
D'accord. J'ai entendu M. Dupont-Aignan avec notre ami Pierre Jovanovic, c'était le 19 mai 2010, donc ça date un petit peu, justement indiquer avoir reçu beaucoup de pression pour ça. Est-ce que vous avez eu écho de certains types de pression dont il aurait fait l'objet?
Écoutez, ce que M. Nicolas Dupont-Aignan a reçu comme pression, je pense qu'on l'a reçu dans certains coins. Moi, je peux vous dire que sur la Seine-Maritime, il est vrai que l'UMP était fortement implanté et avait beaucoup d'élus à une époque. Et c'est vrai que les maires craignent des pressions telles que on leur supprime des subventions, on va les empêcher de se présenter à telle ou telle élection... oui, c'est ce genre de pression que l'on reçoit, enfin que les maires reçoivent plutôt.
D'accord. Mais vous êtes le seul parti qui a donc un candidat aux élections présidentielles qui dit clairement qu'il veut sortir de l'euro. On sait que Marine Le Pen a fait un petit peu marche arrière sur la question. Alors ma question est toute simple, toute basique.
C'est-à-dire que Marine Le Pen a fait marche arrière. Je dirais non, elle a stagné puisqu'en fait elle a copié sur ce que M. Nicolas Dupont-Aignan disait. C'est nous qui, les premiers, avons parlé de la sortie de l'euro. Ça fait 5-6 ans que l'on bataille sur ce point. Et aussitôt, Madame Le Pen s'est enclenchée. Bon, c'est très bien si elle pense comme nous sur ce sujet-là. C'est parfait. Mais qu'elle ne dise pas que c'est Monsieur Nicolas Dupont-Aignan qui a repris ses idées. C'est elle qui prend toutes nos idées. Alors, elle fait marche arrière maintenant, soit. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas continuer à être dans un marché où nous avons un euro qui est trop élevé. Et il est certain que de retourner à une monnaie nationale, qui pourrait s'appeler l'euro franc, il y aurait l'euro marque, il y aurait l'euro drac, etc., ça serait aucun problème. Et avoir une monnaie de réserve, une monnaie d'échange.
Justement, donc, la plupart de vos électeurs potentiels indiquent que le point fort de Debout la République et de M. Dupont-Aignan concerne justement la politique économique. Comment expliquez-vous que la plupart des grands journalistes de l'économie qui ont la plus grande tribune dans les médias français, tels que par exemple Alain Minc ou Éric Toiti, arrivent d'une manière aussi énorme à se mettre des doigts dans les yeux lorsqu'ils parlent d'économie? Par exemple, Monsieur Alain Minc avait dit à plusieurs reprises depuis 2008 qu'on ne vivait qu'une petite crisounette. Comment expliquez-vous que les médias soient autant peuplés par des gens qui sortent des absurdités pareilles?
savez, est-ce qu'on peut être dans la tête de chaque Français ? Les Français attachent de l'importance et de la crédibilité à des gens qui leur assènent tout le temps les mêmes paroles. Vous savez, actuellement, je crois qu'il y a très peu de candidats qui ont le courage, comme M. Nicolas Dupont-Aignan, de vraiment toucher du doigt la misère qui est actuellement en France. Et c'est vrai que selon certains économistes, c'était une crise honnête, elle était même derrière nous maintenant, alors qu'on s'aperçoit qu'elle est... on est en plein dedans et le plus grave arrive en pleine face. Bon, par contre, on a des économistes comme M. Sapir qui ont toujours eu la même pensée que M. Nicolas Dupont-Aignan, qu'on allait dans le mur, M. Todd aussi. Donc, je crois que on donne une crédibilité aux gens à qui on veut bien accorder sa confiance. Et puis, vous savez, le Français, depuis de nombreuses années, comme on lui supprime la parole de plus en plus, eh bien, le pauvre se réfugie, je dirais, en disant, si celui-ci dit que c'est pas la crise ou que c'est une petite crise, c'est peut-être lui qui a raison. Mais je crois que c'est la petite lueur d'espoir qu'ils essaient d'appréhender, surtout. Vous savez, quand on vous dit que votre pays est dans la mélasse, on essaye de se raccrocher à tout ce qui peut vous donner un petit peu de lumière. Bon, si celui-là, qui a quand même une large écoute, nous dit que c'est passé ou que c'était pas si grave, on essaie de le croire. Je vais vous dire un vieux principe, comme disaient nos grands-parents, on essaie de se raccrocher à n'importe quel saint quand c'est comme ça.
Je dois dire que il est quand même un petit peu compliqué de repérer où est-ce que se positionne précisément Nicolas Dupont-Aignan. En tout cas, c'est ce qu'on entend dire assez régulièrement sur l'échiquier politique. Est-il de droite, est-il de gauche, puisque apparemment il serait de droite, c'est ce qu'on nous raconte un petit peu partout, mais sa politique,
Monsieur Nicolas Dupont-Aignan est un gaulliste républicain et social, comme moi-même d'ailleurs, et nous ne faisons pas une politique de droite, une politique de gauche. Souvenez-vous, mais je ne sais pas quel âge vous avez, peut-être êtes-vous trop jeune, mais le général de Gaulle disait toujours qu'il se situait au-dessus des partis. Et je dirais que c'est ça la valeur et la grandeur du mouvement gaulliste. C'est qu'on ne veut pas, comme notre chef d'État actuel ou même d'autres candidats à la présidence, séparer ce peuple français. La France ne sera grande que lorsqu'un candidat, un président, arrivera à dire que la France est rassemblée. Le peuple de France, et non pas la droite, la gauche, les vrais Français, les Français d'adoption, etc. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans un tel pétrin. C'est même pire qu'un pétrin, c'était vraiment la chienlit, comme disait le général, qu'il est temps de rassembler tous les Français et d'arrêter de monter les Français les uns contre les autres, les riches contre les pauvres contre ci, de mettre en lumière les chômeurs, de mettre en lumière, je sais pas moi, les handicapés, de mettre en lumière, d'essayer de faire du communautarisme.
Oui,
et
mais
ça, M. Nicolas Dupont-Aignan est tout à fait contre.
Il y a quand même des choses qui opposent très profondément la politique à mener, par exemple, M. Charles Pasqua, est celle de M. Mélenchon aujourd'hui. J'ai lu sur Internet, alors peut-être que j'ai lu des bêtises, qu'il y a eu des tentatives de rapprochement avec Charles Pasqua en 99 et puis aussi également quelques tentatives de rapprochement avec le Front de Gauche.
J'aimerais que vous soyez clair, parce que je ne vois pas à quel niveau on peut faire une comparaison entre M. Charles Pasqua, pour lequel j'ai la plus grande estime, et M. Mélenchon.
Mais je sais pas, c'est mes confrères journalistes qui parlent de ça un petit peu partout sur Internet.
Si vous parliez par exemple de Charles Pasqua et de Nicolas Sarkozy, ils ont occupé les mêmes postes de ministre de l'Intérieur. Mais à ce que chasse, M. Mélenchon n'a jamais été ministre de l'Intérieur.
Tout
donc
à fait.
Aucun rapport avec M. Pasqua. Là, j'avouerai que je ne vous répondrai pas parce que je ne vois pas, comparons ce qui est comparable. Si on compare, par exemple, le ministère de l'Intérieur de Charles Pasqua et de Sarkozy, on peut savoir que pendant le ministère de Nicolas Sarkozy, sa place au ministère de l'Intérieur, 30% d'augmentation des conseils de discipline pour les policiers.
Ah oui. Et comment vous pouvez...
Des comparaisons comme ça.
Comment
qui est comparable.
Alors justement, comment jugez-vous la politique exercée par le président sortant durant ces 5 années au pouvoir? Qu'est-ce que vous allez retenir là-dessus? Le côté bling-bling, stigmatisation des immigrés ou autre chose?
Moi, je dirais ce qui a été le pire dans ce quinquennat, c'est d'avoir fait beaucoup de promesses aux Français. Et quand les Français, enfin quand un peuple commence à être malheureux, parce que ça fait plus de 5 ans que la misère s'est installée en France, quand un peuple commence à être malheureux et qu'on lui fait briller un certain avenir meilleur, je serai le président du pouvoir d'achat. J'irai chercher la croissance avec les dents. Je ferai le plein emploi. Les gens, évidemment, comme ils ont envie d'y croire, ont voté pour lui, avec sincérité. Et aujourd'hui, on s'aperçoit, alors pendant toute sa campagne avant le quinquennat, il nous a dit « j'ai changé hein ». Fouquet, c'était terminé. Maintenant, il dit « j'ai appris ». Mais qu'a-t-il appris, à part de faire toujours des effets de manche, des grandes promesses que jamais il n'applique? C'est bien gentil de dire aujourd'hui, à 17 jours des élections présidentielles, il faudra des peines fermes. C'est terminé, les remises de peine. Il faudra chasser les terroristes, etc. Il y avait une phrase qui était superbe. C'était une phrase de Pasqua qui avait dit « il faut terroriser les terroristes ». Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que M. Nicolas Sarkozy, le chef de l'État, ne fait que des déclarations au coup par coup, en fonction de l'actualité. Demain, si on s'aperçoit qu'on terrorise ou qu'on maltraite les animaux, hop, on fera une réforme pour les animaux. Voilà. Ce n'est que du coup par coup, des effets de manche, du commerce politique, en fait. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en 5 ans, il n'a rien appliqué. Et s'il fallait, par malheur, qu'il soit réélu, il serait réélu sur des promesses qu'il ne tiendra pas plus dans le quinquennat à venir.
Alors, une rumeur circule indiquant que M. Wauquiez aurait été missionné par le président sortant pour négocier avec les grandes entreprises pour qu'elles évitent de licencier avant les élections. Est-ce que vous avez eu des échos de tout cela et quel est votre sentiment ?
C'est vrai qu'on a eu des échos, c'est vrai qu'on en parle, mais je ne serais pas surprise. Je ne serais pas surprise. C'est tout à fait le type même d'agissement du président candidat ou du candidat président. On le met dans le sens qu'on veut. Mais tout à fait. Il est capable de tout. Je dirais même pas du meilleur comme du pire, surtout du pire. Et aujourd'hui, il est capable de demander à des grandes entreprises de ne pas licencier les employés simplement pour obtenir des voix de ses employés. C'est-à-dire que quand ça l'arrange, c'est ses amis du CAC 40 qu'il met en avant, mais quand c'est pour tromper les Français, il est capable d'aller raconter n'importe quoi au peuple français. On a un exemple dans ce qu'il est capable de faire et de défaire le lendemain, c'est de faire un référendum. C'est-à-dire qu'un référendum, c'est donner la voix au peuple, aux Français. Je dirais presque vox populi. En 2005... sur la Constitution européenne. N'en voulez-vous pas? Eh bien, on s'est aperçu que les Français ont voté à 55% ce non à la Constitution européenne, et par des moyens, je dirais, disgracieux, pour ne pas être méchante, il nous a quand même imposé cette Constitution européenne uniquement par le traité de Lisbonne. Alors vous voyez qu'il est capable...
Chers auditeurs, nous profitons d'un moment d'accalmie dans cette programmation endiablée pour vous annoncer que notre site internet a été rafraîchi et mis à jour. Vous trouverez donc toutes sortes d'informations et des moyens de nous contacter sur radiopulse.fr. Mademoiselle Pulsette, s'il vous plaît, voulez-vous rappeler nos auditeurs le site de notre station ?
Radiopulse.fr.
Voilà, exactement. Il suffit donc de vous y rendre par le www pour découvrir comment nous capter et également comment participer à nos émissions si vous avez envie, vous aussi, de faire de la radio. Redis-moi ça, Pulsette.
Radiopulse.fr.
Voilà, exactement. Donc, vous trouverez tous les renseignements sur notre site internet. Merci de votre attention.
une France encore en noir et blanc, avec pour seul bagage l'espoir de vendre ma négritude contre un peu d'argent. J'étais le fils du tirailleur sénégalais, le banania dans sa version au balai. Celui qui dit Boana, tu peux toujours compter sur moi. Je serai les jambes, la main d'œuvre et les bras. J'ai fumé toute une vie bien plus que de raison, sans vie, vivaldi au rythme des quatre saisons. Pour gagner mon diplôme de roi des balayeurs, un salaire de misère, le bruit et l'odeur. On n'avait pas la carte et pas l'identité, juste le faciès et le droit de la fermer. On n'avait presque rien et presque pas le choix. C'était ça la France du petit Nicolas. J'ai vu le jour un beau matin d'avril, dans une France traite, touche pas à mon pote. Ça sentait plutôt bon, la force tranquille, mais y'avait comme un bruit de fond, de bruit de bol. J'étais le fils de l'homme au marteau piqueur, la tête de nègre dans sa version petit peu. Celui qui dit si dit, pour être je serai l'arabe qui cache la forêt. J'ai répondu banco quand on m'a dit intégration, mais c'est plus des études, non, c'est un marathon. Si je serre les dents, aurais-je droit au bonheur? Et si je baisse la tête, aurais-je l'air d'un chômeur? On avait juste la carte mais pas l'identité, toujours le faciès et le droit de la fermer. On avait presque rien mais rien fait pour ça. C'était ça la France du petit Nicolas. Vraiment le jour de ma naissance, mon baptême à moi c'est celui d'un naissance. Et cette voiture qui crame un matin de novembre, la carte d'identité d'une jeunesse France. Je suis le fils de celui qui n'a plus rien, le mauvais garçon face au karcher à la main. Un apprenti messerine en culotte courte, prêt à dégainer au moindre doute. Il est loin le bon nègre et l'arabe de service, les auvergnats, les bons prototypes, tous ceux qui prient pour qu'il existe encore une vie avant la mort. Qu'importe la carte ou même l'identité, quand on a le faciès et le droit de la fermer. Quand on a presque rien et rien fait pour ça, dans la douce France du petit Nicolas. Qu'importe la carte ou même l'identité, quand on a le faciès et le droit de la fermer. Quand on a presque rien et rien fait pour ça, dans la douce France du petit Nicolas.
Et bien à l'instant c'était les Fatal Picard, la France du petit Nicolas. On va poursuivre en musique avec Massilia, Sound System, Brûle ses papiers. Et puis il y a quelques instants vous avez entendu une interview de Brigitte Brière, porte-parole de Nicolas Dupont-Aignan, interview réalisée le 5 avril dernier, donc avant son pétage de câble sur Canal+.
Bon, la chose qui vient est spécialement dédicacée à tous les ragamuffins qui allons tasser de subir tout le temps des tonnes de papier dans nos boîtes aux lettres accumulées. Il faut répondre à tout le monde et je commence à être fatigué. Oh, laissez-moi tranquille, laissez-moi vivre cool dans la partie. Oh oui, mais de la bureaucratie, je subis les requêtes. Depuis bien trop d'années, j'ai un câble qui pète. Je craque une allumette tout au fond de ma tête. Ma flamme virtuelle aussitôt se projette. J'allume un feu de joie, on va faire la fête. Ce soir, je fais cramer ces putains de papiers. Mais pour de ces papiers, je te libre ces papiers. Pour de ces papiers, je te libre ces papiers. Pour de ces papiers, je te libre ces papiers. Pour de ces papiers, je te libre ces papiers. Les factures et les lettres d'huissier, les PV, les notes d'électricité, les impôts et les quittances de loyer, les tracts et les publicités, la lettre qui dit que tu es licencié, la CEDIC et ces putains de courriers, tous ces tracas que le facteur t'a apporté. Mais si le feu est bien avec nos beaux légués, mais pour de ces papiers, je te libre ces papiers. Pour de ces papiers, je te libre ces papiers. Pour de ces papiers, je te libre ces papiers. Pour de ces papiers, je te libre ces papiers. Les magazines qui te font fantasmer, les programmes électoraux des députés, les interdits prononcés par le préfet, toutes les affiches que le FN a collées, tous les sondages qui sont faits pour t'espionner, les bulletins et les programmes télé, les emboucans, les lettres recommandées. Mais si le feu est bien avec nos beaux légués, hey, pour ces papiers, je te libre ces papiers. Pour ces papiers, je te libre ces papiers. Pour ces papiers, je te libre ces papiers.
brûle ces papiers, je te dis brûle ces papiers. Les serments enflammés de tous les curés, les certificats d'hébergement pour les immigrés, le découvert notifié ce matin par ton banquier, les bulletins de santé, les bulletins de moralité. Arrêtez avec tous ces papiers, ils me rendent faux. Arrêtez de m'inonder, je n'en peux plus du tout. Vous me persécutez, vous me poursuivez de partout. Arrêtez, je vais craquer, je vous le dis entre nous. Mais... ces papiers, pour ces papiers, je te débrouille ces papiers, pour ces papiers, je te débrouille ces papiers, pour ces papiers, je te débrouille ces papiers. Comment, de quoi, pourquoi veut-on m'empêcher de travailler, de m'éclater, de méditer, de chanter? Pourquoi avoir à remplir tout le temps des tas de papiers? Obligé, contraint, forcé, je me sens oppressé par la masse de documents sur mon bureau éparpillé. Mais si tu veux, toi aussi en être débarrassé. Mais si le feu est bien avec nous pour les gays. Mais si le feu est bien avec nous pour les gays. Mais pour ces papiers, je te débrouille ces papiers. 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 Mais arrêtez avec tous ces papiers, ils me rendent faux. Arrêtez de m'inonder, je n'en peux plus du tout. Vous me persécutez, vous me poursuivez de partout. Arrêtez, je vais craquer, je vous le dis entre nous. Mais arrêtez avec tous ces papiers, ils me rendent faux. Arrêtez de m'inonder, je n'en peux plus du tout. Vous me persécutez, vous me poursuivez de partout. Arrêtez, je vais craquer, je vous le dis.
Massélia Sound System à l'instant avec Brûle ces papiers, un pavé dans ton urne, ou mon pavé dans ton urne, comme vous préférez. Émission exclusivement consacrée ce soir au premier tour des élections présidentielles. On a eu l'occasion d'interviewer tous les candidats ou leurs plus proches porte-parole. Dans quelques instants, vous entendrez Nathalie Arthaud pour Lutte Ouvrière et puis Alain Lambert, ex-ministre du budget sous Sarkozy et actuel soutien de Bayrou.
Dites-moi d'abord où vous en êtes dans l'interprétation de ce langage de Martien.
Je crois avoir pu identifier quelques sons très significatifs. À mon avis, ils proviennent d'une langue très ancienne dont les mots représentent l'expression pure et simple du subconscient. Ce mot, par exemple, veut dire la terre. Et celui-là,
c'est bien.
Exprime l'univers. Quant à cet autre, une sorte de langage basé à la fois sur les sons et les images de l'esprit.
Vous ne voyez aucune autre explication?
La réalité terrestre se diffère de l'au-delà.
Pulse.
Pour nous, c'est une campagne militante. Hein. Nous, on sait que rien ne nous sera donné. Hein, les médias nationaux, ils n'ont pas envie de donner la parole, y compris à une nouvelle... Enfin, pour eux, l'extrême gauche, c'était Olivier Besancenot et puis point barre. Quoi.
Vous n'avez pas peur qu'on dise que vous contribuez à une dispersion des voix à gauche et justement à favoriser l'UMP ou l'extrême droite? Il y a par exemple le Front de Gauche qui doit se présenter aux élections présidentielles. Il y a différents partis à gauche. À droite, il y en a un petit peu moins. Est-ce que vous avez à répondre aux gens qui répètent ça régulièrement? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous allier ou vous n'avez pas envie de vous allier, par exemple, au NPA ou au Front de Gauche?
D'abord, surtout, diviser la gauche, non, moi je ne me sens pas diviser la gauche. La gauche, ce sont les partis qui gouvernent ensemble dans les gouvernements de gauche. C'est qui? C'est le Parti Socialiste, c'est le Parti Communiste, c'est le Parti de Gauche, c'est les écologistes. Alors, bon, les uns et les autres, ils ont envie de se présenter. Hein, bon, c'est eux qui divise la gauche. Moi, je ne suis pas dans la gauche. Moi, je suis à l'extrême gauche. Je pense que les gouvernements de gauche, derrière Mitterrand ou derrière Jospin, ils ont fait assez de mal, justement, aux travailleurs en trahissant leurs intérêts. Parce qu'à chaque fois qu'ils étaient au pouvoir, ils ont laissé les patrons faire ce qu'ils voulaient. Ils les ont laissé fermer les usines, ils les ont laissé licencier, ils ont laissé les travailleurs dans la misère. Leur souci, à chaque fois, c'est de répondre aux, aux désirs des capitalistes. Alors ils en passent comme ça par effectivement des aides, des subventions en tout genre. Enfin bon, voilà, ils leur font la part belle.
Qu'est-ce que vous pensez des banquiers, de leur façon d'agir ?
Moi, je pense d'abord que les banquiers sont des voleurs, comme beaucoup, beaucoup de gens. Et je pense surtout qu'effectivement, cette dette, elle n'est pas un malheur pour tout le monde, parce que ça leur rapporte. Ça leur apporte déjà 50 milliards par an d'intérêts. Donc, c'est quand même pour eux une sacrée manne. Ce que je tiens à dire sur cette dette, c'est que c'est vraiment la dette de la bourgeoisie. C'est la dette des capitalistes. Sur les 3 années de crise, il y a eu 420 milliards de dettes supplémentaires qui ont été faites. C'est quand même pas une paille, 420 milliards. Et ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas un centime qui est passé dans nos poches à nous, dans la poche de chômeurs, dans la poche des travailleurs, dans la poche des retraités. Il n'y a pas eu un centime. Pas un centime qui a été mis dans l'école ou dans la santé. Donc, ils sont passés où, ces 420 milliards ? Ils sont passés en subventions de toutes sortes, et puis permanentes, aux grands capitalistes de l'industrie, de la finance. Eux, ils ont eu effectivement leurs bénéfices garantis, leurs profits garantis. Donc, ce que je vais dire et redire dans cette campagne, c'est que cette dette, c'est pas aux travailleurs de la payer. C'est pas leur dette, ils n'en sont pas redevables, c'est à la bourgeoisie. Et il va falloir résister à tous les sacrifices et à tous les chantages en tout genre sur cette dette.
Oh de Dieu, Blake, vous êtes un communiste, ça crève les yeux.
Oui, je suis communiste et un marxiste en plus, et je t'emmerde, gros combat, toi, fasciste pourri, impuissant à la solde du patronariat et de l'impérialisme yankee. Casse-toi de chez moi, gros porc, avant de ta lessive.
D'abord, c'est celui qui dit qui est. En plus, je bosse pas avec des cocos.
Oh, Lénine, réveille-toi.
Évidemment, ça a été le président des riches, c'est absolument clair. Bon, le bouclier fiscal, c'était le symbole. Mais c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt, parce que des milliards de subventions et d'aides en toutes sortes, on les compte plus, on les compte plus. Donc, c'est évident que c'était un gouvernement exclusivement pour les intérêts des plus riches. Bon, mais après ça, moi, c'est le bilan de la politique de Sarkozy que je peux faire, mais pas que, parce que bon, Sarkozy, c'est pas non plus l'alpha et l'oméga, faut pas non plus lui donner trop d'importance à Sarkozy. Quand même, ces 5 dernières années, elles ont été aussi caractérisées par la crise d'une économie, d'un système, et ça, faut quand même le voir. C'est pas Sarkozy qui je veux pas le dédouaner, c'est pas la question de le dédouaner, mais c'est pas lui qui est au pouvoir aux États-Unis ou en Grèce,
Oui, c'est pas lui seul qui fait qu'aujourd'hui en Chine, un salarié coûte moins cher qu'un esclave du temps de Rome, c'est clair, mais bon, c'est un peu la politique qu'il défend. Là, ces derniers jours, on nous dit qu'on a 2-3 semaines d'une faillite mondiale, quoi, de la fin d'un système. Quelle est votre analyse sur cette situation ?
Justement, c'est ça le problème. C'est qu'on est dans une économie qui est complètement folle, complètement irrationnelle, où il n'y a que le profit individuel qui compte, la course, au profit, et c'est le chacun pour soi. C'est la spéculation à tout va, c'est ça cette économie. Donc effectivement, cette économie, elle nous plonge dans les crises à répétition. Et à un moment donné, il va bien falloir se poser le problème de cette économie, de comment en reprendre le contrôle. Nous pensons que la meilleure façon de reprendre le contrôle, ce serait d'exproprier le patronat, les capitalistes, et que les travailleurs ils reprennent le contrôle eux-mêmes des entreprises. Parce que finalement, eux, ils pourraient les diriger, les entreprises. Et ils les dirigeraient pour l'intérêt général, justement. Pas seulement pour l'intérêt d'une minorité rapace, ils les dirigeraient pour l'intérêt du travailleur et pour l'intérêt de toute la société. Y compris bien des catégories populaires, bien des artisans, bien des commerçants, bien des petits paysans en ressortiraient gagnants de ce changement d'économie. Parce qu'on voit aussi qu'eux aussi subissent finalement l'appauvrissement général. Donc, nous, c'est ça notre programme. On est communistes, révolutionnaires, et on pense qu'il faudrait, à un moment donné, se poser la question de quelle économie on veut mettre en avant. Est-ce qu'on va se résigner comme ça à ce qui est un océan de misère alors qu'on n'a jamais été capable de produire autant de richesses ? Non, pour nous, c'est absurde. Et nous, on se résigne pas, et on espère qu'il y aura des explosions sociales pour remettre en cause tout ça.
Est-ce que vous vous sentez proche du mouvement des indignés ?
Je pense que c'est une bonne chose que tous ces jeunes, ces moins jeunes, soient révoltés, même s'ils disent pas révoltés. Moi je le dis, c'est comme ça, c'est comme ça que je le sens. Bah, j'espère en tout cas qu'ils vont pas s'arrêter à l'indignation. Parce que tiens, quand même, je tiens à dire que l'indignation, honnêtement, ils s'en moquent. Hein. Ceux qui dirigent, ça leur fait pas tellement peur l'indignation. Hein. Vous savez, il faut quand même se souvenir que le capitalisme, il est né dans la boue et dans le sang de l'esclavage, hein. Dans le pillage de pays entiers, et que l'indignation, ça l'a jamais arrêté. Donc aujourd'hui, quand on voit que l'Union européenne est en train de remettre en cause les subventions qu'elles accordaient au Restaurant du Cœur, au Secours Populaire, à toutes, bon, qui faisaient quand même, qui maintenaient en vie 13 millions de personnes en Europe, on se dit que l'indignation, c'est mais pas c'est, ça qui les
arrête. Surtout dans une période où on n'a jamais été aussi près d'avoir les distributeurs de banques vides, en fait.
Oui, alors voilà, pour moi, l'indignation, c'est un premier pas, mais il faut être conscient qu'il y a un sacré combat à mener, un combat, et un combat contre, effectivement, la puissance de l'argent, contre les capitalistes, contre les banquiers, les spéculateurs, et que dans ce combat-là, la force qui est capable de changer les choses, pour nous, communistes révolutionnaires, c'est les travailleurs, c'est les exploités, c'est les salariés, c'est leur force collective. Parce que c'est eux qui font tout tourner, et c'est eux qui sont capables, effectivement, d'arrêter cette machine, et d'imposer un rapport de force. Parce que c'est bien beau hein, d'occuper les places, mais ce qu'il faudrait, c'est occuper les usines, c'est les empêcher de tourner, les empêcher de remplir leur coffre-fort, c'est ça qu'il faudrait. C'est ce qui s'est passé en 1936 en France, et c'est comme ça aussi qu'il y a eu des avancées. Donc voilà, nous, c'est cette politique-là. On espère qu'il y a plein de jeunes qui aujourd'hui se posent ces questions et qui en viendront à ces conclusions-là.
Donc on va leur proposer de passer du stade d'indigné à révolutionnaire, mais en fait une révolution. Alors les indignés, eux, sont très pacifistes. Du coup, il y a une politique extrême à côté. Parfois, on peut se demander si être aussi pacifiste, ça peut réellement les faire bouger, quoi. Parce qu'on a des gens qui viennent piller carrément notre assiette. C'est pas normal qu'un steak, il y ait déjà quelqu'un qui prenne sa com au passage. Je pense à la JP Morgan, par exemple, ou des banques de ce genre. Mais donc, vous leur proposez de passer du stade d'indigné pacifiste à révolutionnaire. Parce qu'une révolution, ça s'est jamais fait sans le sang.
Révolutionnaire, oui. Et nous, on est conscients que c'est un véritable combat. Et qu'à chaque fois que la bourgeoisie s'est sentie menacée, elle savait, y compris, utiliser les armes. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas exclure. Mais nous pensons, nous, que notre force, c'est avant tout la force collective. C'est avant tout le fait que le mouvement il soulève des millions de femmes et d'hommes dans tous les métiers, dans tous les secteurs d'activité. Et pouvoir faire contrepoids, pouvoir bloquer, c'est avant tout ça notre force. Mais c'est se préparer à toutes les éventualités et être prêt, effectivement, à aller jusqu'au bout de ce combat, pas s'arrêter. En face, on n'a pas affaire à des gentils, effectivement. On a affaire à des gens qui sont capables de tout, de pousser à la misère, de ruiner des régions entières et même d'affamer hein, les peuples. Donc ça, il faut en être conscient et être prêt à ce combat-là.
Nous sommes au début d'un processus. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, c'est absolument fantastique. La semaine dernière, dans la seule journée de jeudi dernier, les États-Unis ont détruit 75 000 emplois dans la journée. Phénomène mondial. Au mois de décembre, l'Espagne a connu 200 000 chômeurs de plus. L'Allemagne, pareil. Donc les États-Unis sont à 1,5 million de chômeurs de plus, en un seul mois.
Phénomène mondial. C'est clair.
Yeah.
ACRACR, les porte-manteaux, à l'instant, on sort Pulse, mon pavé dans ton lion, une émission exclusivement consacrée au premier tour des élections présidentielles. À l'instant, c'était Nathalie Arthaud pour Lutte Ouvrière. On va poursuivre avec Alain Lambert tout de suite, ex-ministre du budget sous l'ère Sarkozy et porte-parole de François Bayrou pour le MoDem.
Nous sommes avec Monsieur Lambert, ancien maire d'Alençon, ancien ministre des budgets, c'était en quelle année déjà ?
En 2002 et 2004.
De 2002 et 2004. Donc vous avez apporté votre soutien à Monsieur Bayrou. Qu'est-ce qui fait que vous soutenez Monsieur Bayrou et non Monsieur Sarkozy ?
Parce que d'abord Sarkozy m'a déçu, et par ailleurs je pense aujourd'hui que nous avons des problèmes graves et que nous avons besoin de donner de la vérité à la politique. Je pense que les Français ont besoin de vérité, ils veulent savoir la vérité, même si elle est difficile à entendre. On leur parle de crise, pourquoi cette crise est survenue, quelles sont les solutions. Il faut utiliser un langage clair pour que chacun sache quelle est cette voie, quelles sont ses chances, et je pense que Bayrou est le seul à avoir le langage de vérité.
Et qu'est-ce qui vous a plus déçu de la part du président sortant ?
D'abord, je n'ai pas aimé son comportement. Je pense que lorsqu'on est élu président de la République, c'est un grand honneur qu'on reçoit, mais on doit immédiatement prendre l'habit de l'humilité. Et l'humilité n'est pas la qualité principale de Nicolas Sarkozy. Et je pense que ça a beaucoup nui. Il a en revanche de l'énergie, on ne peut pas le lui reprocher. Mais je pense cependant que le comportement qui a été le sien a manqué de retenue et probablement de sens de la responsabilité.
Tout récemment, M. Nicolas Sarkozy a indiqué que M. Bayrou serait un très bon Premier ministre. Alors, est-ce que vous pensez, au cas où M. Bayrou ne serait pas présent au deuxième tour, que M. Bayrou serait tenté par cette opportunité ?
À dire vrai, c'est à lui naturellement de répondre. Mon pronostic, c'est que la réponse est non. Parce que je vous ai dit que la vérité était quelque chose d'essentiel. François Bayrou fait campagne sur la vérité. Il dit que nous avons des efforts à faire, qu'il faut qu'ils soient équitablement répartis. Et il n'est pas à la recherche d'un poste. Or, on a l'impression que le président sortant est en train d'essayer de quêter des suffrages en offrant tel ou tel poste à tel ou tel leader. Je pense que François Bayrou n'est pas dans cette démarche-là, parce qu'il est dans la démarche du meilleur gouvernement possible pour redresser le pays.
Donc vous ne pensez pas que M. Bayrou donnera ses voix à M. Sarkozy ?
Je pense qu'il faut laisser au chef le soin de décider, et je ne suis pas chef du tout, moi je suis au service du chef.
D'accord. Est-ce qu'on peut faire un petit tour rapidement, parce que je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais du programme de M. Bayrou, je ne sais pas, par exemple, concernant l'emploi ou le logement ou...
Alors sur l'emploi, son idée c'est que d'abord il y a toute une jeunesse qui n'accède pas à l'emploi, et c'est le pire drame qui soit, parce que cette jeunesse peut se poser la question de savoir d'abord pourquoi elle n'accède pas à l'emploi et pourquoi on n'y donne pas sa chance. Et son idée c'est précisément, notamment pour ceux qui n'ont pas tous connu un succès scolaire, et c'est quand même un certain nombre, c'est de regarder par exemple dans les nouvelles technologies si on ne peut pas leur donner des endroits où ils vont pouvoir, par l'apprentissage notamment, accéder à des métiers pour lesquels ils seraient extrêmement doués, et parce qu'ils sont habiles aux nouvelles technologies, et apprendre un métier qui va occuper, aller à l'horizon de 10 ans, 40% des emplois dans le monde. Et donc là, ils ont toutes leurs chances. Ça, c'est pour la jeunesse et c'est pour des activités. Je crois aussi que nous avons, en matière de logement, à prendre en compte qu'on a voulu concentrer tous les logements au même endroit, et ce qui a eu pour effet de stocker au même endroit les mêmes misères. Et comment voulez-vous vous relever si vous avez des misères encore plus graves que celles de votre voisin ? Ce qui permet de relever les personnes qui sont dans la misère, c'est d'avoir à côté d'elles d'autres personnes qui ont peut-être été plus favorisées et qui peuvent leur aider, qui peuvent partager. Et donc je pense qu'il faut revoir tout l'urbanisme, et l'idée c'est qu'il faut en effet à la fois détruire et à la fois construire, aller plus notamment dans nos départements vers des logements individuels que des logements collectifs. Disons, allez, il faut revisiter la France, il faut faire une France nouvelle. Voilà,
c'est très ambitieux quand même.
C'est faisable. C'est faisable parce que si nous occupions par un emploi. Toutes les personnes aujourd'hui qui sont privées de cet emploi, vous savez, nous pourrions produire probablement 20% de plus que nous produisons. Et donc la richesse dont tout le monde se demande où elle peut se trouver, ben, elle se trouve là. Cette richesse, elle n'est pas activée, tout simplement. Vous qui êtes des jeunes et qui connaissez les technologies, vous avez des appareils entre les mains, si vous ne les activez pas, ils ne vont pas marcher. Eh bien, c'est vrai pour une personne qui n'a pas d'emploi. Elle n'est pas activée, donc il faut la rendre active, non pas d'ailleurs en l'engueulant, mais simplement en lui disant qu'elle est une valeur et qu'elle peut servir à quelque chose.
Merci beaucoup, monsieur Lambert.
Que vous votiez ou que vous ne votiez pas, cela ne nous regarde pas. Début mars, après une mûre et solide réflexion, la petite équipe de Radio Pulse s'est mise au défi d'interviewer l'ensemble des 10 candidats au présidentiel de 2012. Nous nous sommes dit que beaucoup d'entre vous sont hermétiques à la campagne. Nous avons donc décidé d'en avoir une approche différente, celle abordée par les médias traditionnels. Lors de nos différentes interviews avec les militants, les candidats, nous leur avons posé les questions que vous, auditrices et auditeurs, nous avez transmises.
Je voulais savoir, est-ce que c'est aussi que la buvette du stade, elles sont ouvertes même quand il n'y a pas de match?
Mercredi 18 et jeudi 19 avril, dès 18h sur Pulse 97FM, vous aurez l'occasion de savoir si nous avons réussi à relever le défi. Mon pavé dans ton nu, en émission exclusivement consacrée au premier tour des élections présidentielles, comme vous l'avez remarqué sans doute, nous avons refusé toutes les conférences de presse, nous avons tenu à interroger les candidats en tête à tête et nous leur avons attribué un temps de parole identique, c'est-à-dire à 10 minutes 30 si on enlève nos questions. Voilà, on a fait un travail de malade alors qu'on n'est pas très nombreux à ça. Ce monde marche sur la tête, alors pourquoi pas nous? C'est pour ça que vous retrouverez les Easy Star All Star tout de suite avec Money. Star All Star à l'instant pour une belle reprise de Pink Floyd version électro-dub, c'était le morceau Money. Nous avons tenu également à laisser parole aux citoyens lambda qu'on peut croiser n'importe où, même un samedi soir dans les rues à Caen. Voilà, tout de suite sur Pulse.
N'est-ce pas? Vous m'avez sans doute reconnu, n'est-ce pas? C'est Jean-Marie Le Pen. Si je sais que ma fille ne passera pas au deuxième tour, car les Français sont crédibles, ne sont pas des idiots, ils ne voteront pas le FN, ne voteront pas le Front National. C'est pourquoi il faut voter à l'extrême gauche, n'est-ce pas? Il ne faut pas voter Sarkozy, il ne faut pas voter Hollande, n'est-ce pas? Ce ne sont que des petits bourgeois qui défendent la bourgeoisie, n'est-ce pas?
Ok, voilà, on va essayer de faire une petite interview un peu plus sérieux du coup.
Ah, si tu veux, y'a pas.
Alors vas-y, dis-moi pourquoi t'as cramé ta carte.
Et mon pote, vous m'invitez à la radio, je vous fais tout ce que vous voulez à la radio.
Bah voilà, mais déjà on fait un essai pour voir si ça passe très bien. Fais le café, c'est mort. Mais déjà, fais un essai pour voir si ça marche.
Allez, vas-y.
Tente un nouveau.
C'était quand ta dernière chasse à cour?
Ma dernière chasse à cour?
Monsieur Voltralta, c'est réalissime.
Merci. Alors, premièrement, avant de répondre à votre question, je vous remercie d'honorer mon titre de noblesse. C'est un honneur.
Il y a Bambi là-bas, vas-y, monsieur le prince.
Effectivement, dommage que je n'ai pas pris mon fusil. Ma dernière chasse à cour, c'était avec monsieur Boréal. On était dans le bois de Vinci, oui. Non, on ne fait pas ce genre de chasse à cour. Enfin, il le fait pas avec moi, il le fait sûrement, mais pas avec moi. Et je suis pas sûr qu'il aille chercher ses proies, entre guillemets, au bois de Boulogne. Donc ma dernière chasse à cour, c'était il n'y a pas très très longtemps d'ailleurs. Monsieur Boréal, qui était avec monsieur... comment il s'appelle le mec qui fait les avions là?
Dassault.
Monsieur Dassault.
Faut la brûler entièrement ta carte de l'UMP.
J'ai commencé.
Faut la brûler entièrement.
Je la ferai quand je passerai en direct à la radio.
Je te connais pas, mais il faut la brûler entièrement.
Pourquoi est-ce que t'as pris ta carte l'UMP?
J'ai une famille de droite qui m'a poussé à le faire et j'ai suivi la campagne de très très près.
C'est un peu une carte de droite.
Campagne absolument nul.
C'est l'antithèse de nul.
Ça, on est d'accord là-dessus, que ça soit.
Monsieur, moi, je peux t'aider à la brûler.
La campagne a été nulle. Elle a été
chimagone. Avant de la brûler, quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut filmer quand il crame ses cartes?
Juste pour vous dire, en fait,
il faut le filmer.
Je devais aller au.
Il faut le filmer. Et vous avez des iPhones.
Je devais y aller.
Et vous avez des iPhones,
des machins comme ça.
Sauf que moi, je ne suis jeune pas, donc c'était pas. Je suis censé y aller en tant que. Pas nécessité, mais. Je dois aller supporter mon candidat.
Et monsieur, votre adversaire
non plus. Non plus, non.
Ah voilà.
Allez, on la brûle,
c'est pas tous les jours.
Brûlons la.
Moi, je peux te demander pourquoi tu voulais prendre ta carte à l'UMP autre que pour... parce que tes parents sont à l'UMP et que ta famille est à l'UMP.
Parce que j'ai été poussé. La pression sociale est très forte de nos jours, tu sais.
Ouais, oui, mais la pression sociale.
Pour réussir dans la vie, on est poussé par la pression sociale.
Bah, je sais pas,
la pression sociale aujourd'hui.
J'ai un bac plus 5 de droit et ma pression sociale me pousse à avoir une carte de gauche.
Et pourtant, c'est parce que tu viens d'une famille de gauche.
Bah non, pas forcément.
Donc la pression sociale ne te pousse pas à avoir une carte de gauche.
Attends, ce qui veut dire que toi, tu as pris une carte UMP puisque tu as une famille de droit, donc tu as été. Comment dire, éduqué dans une façon où quand tu arrives à l'âge adulte, tu votes à droite, quoi. C'est ce que ça veut dire.
Ce qui veut dire, j'ai été à l'école primaire, au collège, au lycée privé, au lycée, chez les Ursulines. Et
Notre-Dame d'Espérance où on avait un aumônier qui nous obligeait à faire du catéchisme.
Exactement la même chose. Et j'ai toujours préférer les idées de gauche, même si l'idéal social, je trouve ça magnifique.
Alors prends une cravate.
Non mais attends,
avec des bandes
attends. Tu as pris.
Alors là,
tu as pris. C'est moi qui peux l'interview, s'il te plaît.
Désolé.
Donc attends, mais par contre, tu as pris. Tu as une prise.
Attends, je termine.
C'est pas ton âge. Oui, mais d'accord, mais quand même. Non, attends, je pense. Je vais être un jacouille jusqu'à un certain point, mec. Non. Dis-moi,
s'il te plaît. Je suis.
Dis-moi. Tu veux dire
de Paris.
Attends, ce que tu
couleur
disais.
Couleur de la République.
Non, de
blanc,
commune,
ce que tu disais.
Commune.
Donc c'est
une rouge.
Tu disais qu'elle votait à gauche parce qu'elle a été éduquée à voter à gauche. Si toi tu as une carte UMP, c'est que tu as été éduqué à avoir une carte UMP.
C'est pas exactement ça que je disais. Il y a une petite nuance. Je supputais. Après, je ne connais pas ta vie, je connais pas tes expériences, donc je peux pas dire. Je peux récupérer ma.
Vas-y.
Oh non, tu l'as coupé, tu pues.
Pourquoi?
Non, je suis génial.
Il le fallait.
Mais il le fallait.
Ok, il n'y a pas de souci, moi ça me gêne pas de la couper.
C'est comme une américaine.
Le premier aristocrate que je rencontre de ma vie qui vote NPA.
Mon beau-père.
Qui craint sa carte UMP, mais qu'en même temps, ça le fait chier.
American Express, ça veut absolument rien dire.
Incroyable.
Je sais pas, moi j'ai été servi, j'ai vu trop d'American Express, maintenant ça me dégoûte les American Express.
Up in the sky, it's a bird!
It's a plane!
It's Superman! Yes, it's Superman! Strange visitor from another planet who came to Earth with powers and abilities far beyond those of mortal men.
Vous êtes toujours sur Pulse 90 FM, www.les-nrv pour les auditeurs de la web radio NRV qui retransmet également ce programme en simultané. C'était donc 3 heures d'émission exclusivement consacrée au premier tour des élections pestilentielles. Mon pavé dans ton urne, ça continue demain à partir de 18h et jusqu'à 21h avec les autres candidats qui n'ont pas eu antenne dans les mêmes conditions, c'est-à-dire 10 minutes 30 par candidat. On tentera d'avoir Europe Écologie Les Verts, le Front de gauche, solidarité et progrès, et puis également certains qui auraient aimé être candidats et qui parfois tant mieux et parfois hélas non pas plus l'être pour différentes raisons. J'ai nommé Michel Lambert, président du parti du candidat, et monsieur Kouman de l'UCM, l'Union des couilles molles. Voilà, et puis également nous aurons François Asselineau qui n'a eu que 2 parrainages pour être candidat aux élections présidentielles, donc il ne peut pas concourir, donc son temps de parole n'étant pas limité, on verra le temps qui nous consacre. Voilà, ce sera demain tout ça à partir de 18h. Vous pouvez télécharger la playlist sur www.radiopulse.fr, avoir le nom de tous les morceaux qui ont été diffusés, des différentes interviews qu'on a fait. En gros, au programme, on a eu Nathalie Arthaud aujourd'hui, Alain Lambert, représentant du Modem. On a eu qui aussi? On a eu le NPA avec Philippe Poutou. On a eu également le numéro 2 du Parti Socialiste en la personne de Harlem Désir. Bref, vous retrouverez également cette émission en libre téléchargement sur www.radiopulse.fr.
Peace.
9.
Eh bien, dans cette émission, nous avons eu également Monsieur Charbonneau et Kevin Baudet, soutien à Lançonnet de François Hollande pour le PS. Nous avons eu également Nathalie Pécresse, porte-parole de Nicolas Sarkozy et actuelle sinistre du budget. La suite de Mon pavé dans ton urne, c'est demain, jeudi 19 avril, dès 18h. Et je confirme la présence de François Asselineau, mais également de Monsieur Cloumane, président de l'UCM, Michel Lambert, du parti du candidat, ainsi qu'un invité mystère de grand nom, qui pèsera également sans doute un grand poids dans la campagne. Enfin, j'ajoute que vous pouvez immédiatement écouter et télécharger librement et gratuitement Mon pavé dans ton urne sur le site de la radio www.radiopulse.fr. Vous pouvez également écouter les rushs de toutes les interviews. Et bien entendu, vous êtes incité à partager à blog d'émission sur les réseaux sociaux Claquemouton et Cucu les petits oiseaux. Ah.